Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le nouveau Buzz TV sur Figaro TV, Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Mathilde ?
Ça va, super.
En pleine forme. Nous recevons aujourd'hui dans ce studio, vous allez reconnaître un humoriste, un comédien aux airs éternels de jeune premier temps. Il semble ne pas vieillir, ce qui paraît pourtant être un exploit quand comme lui on a réussi à survivre successivement à Jean-Marc Morandini, Thierry Ardisson et Michel Drucker et surtout d'être encore là pour en parler aujourd'hui. Mais le rire et la comédie étant d'excellents remèdes, c'est en pleine forme qu'il nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Tom Villard.
Bonjour Nicolas, bonjour Mathilde.
Ça va ?
Bah super.
En pleine forme, Mademoiselle pleine Holmes, forme. C'est la nouvelle série qui raconte les enquêtes de Sherlock Holmes, l'arrière-petite-fille de Sherlock Holmes, le célèbre détective qui a été élevé par son grand-père. Mademoiselle Holmes, c'est Lola Devers, le grand-père, c'est Daniel Prévost, le partenaire d'enquête, eh ben, c'est vous, Tom Villa, ou plutôt Samy Vatel, votre personnage de médecin légiste stagiaire. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, Tom, et qu'on parle un petit peu de cette fiction, une question me brûle les lèvres. Est-ce que c'est bien raisonnable d'être stagiaire quand on a 34 ans ?
Non. Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir été stagiaire toute ma vie. Je suis arrivé dans la série Munch un peu en tant que stagiaire.
Oui, vous êtes devenu associé après, mais au début,
Suis toujours stagiaire. Est-ce que je pourrais avoir un salaire, s'il vous plaît ? Donnez-moi un salaire. Les tickets resto, ça j'en ai, mais un salaire, ça serait cool.
Est-ce que c'est quand même bien d'être un stagiaire quand on veut être un faire-valoir de talent dans une série ? J'aime bien cette petite question, mi-vache, mi-gentille.
Mi-vache, mi-gentille, et puis avec un petit peu de fond. Moi, ce que j'aime bien dans le stagiaire, c'est qu'on ne le voit pas trop arriver. Il est hyper discret, et en fait, il va avoir peut-être un rôle clé, aussi bien au sein de l'entreprise que dans cette série.
Il cache bien son jeu, c'est ça ce que vous voulez dire ?
Exactement.
D'accord. Et vous allez découvrir effectivement que Samy Vatel cache bien son jeu. On va évidemment poursuivre cet entretien. Vous allez tout savoir sur Mademoiselle Holmes et le reste des projets de Tom. Ce sera pas les news médias de Mathilde Seifert. On démarre ces news médias, Mathilde, avec la remise de la Légion d'honneur à un célèbre animateur.
Oui, et vous le connaissez, Tom, il s'agit de Thierry Ardisson. Donc Emmanuel Macron s'apprête aujourd'hui même à décorer l'animateur pour ses activités en tant qu'animateur, producteur de cinéma et de télévision depuis 57 ans. À ses côtés, le comédien Christian Clavier ou encore la chanteuse Sheila recevront la même distinction. Et cette décoration déroge un autre animateur télé, Cyril Hanouna. Pour lui, un pompier mériterait plus cette médaille qu'un animateur, quel qu'il soit. Et il s'inclut lui-même en affirmant que même si on l'a lui proposé, il la refuserait, avançant qu'il ne la mérite pas.
Ouais, alors ça, on en reparlera. Le jour où on lui propose, on verra s'il la refuse. Vous êtes de quel côté vous penchez ? Vous avez bossé avec Thierry Ardisson pendant longtemps.
J'ai bossé avec Thierry Ardisson, bien sûr.
Voilà, la Légion d'honneur arrive. Il a un peu plus de 70 ans maintenant, Thierry. Ouais. C'est mérité, j'imagine, pour l'ensemble de son œuvre, vous trouvez ?
Oui, bah, au vu de tous ceux qui l'ont, quand on regarde ceux, les, entre guillemets, lauréats tous les ans. Oui. Après, moi, le seul truc que je me dis, c'est qu'il est toujours habillé en noir. Il va avoir un point rouge, du coup. Ça va un peu jurer. Donc, est-ce qu'il va trouver un truc, une parade pour, est-ce qu'il va accrocher le pin? Ça, je sais pas. Thierry, tu nous le diras.
Vous la prenez si un jour on vous l'offre, Tom?
Ah, c'est une bonne question.
Pour avoir fait rayonner la France, l'art de la France.
Bon, déjà, on va se laisser quelques années. Hein,
ouais, un petit peu. Il y a d'abord Arrêt des lettres, le mérite.
Et exactement. Déjà, ça sera pas demain, donc on a le temps de réfléchir.
On continue ces news médias, Mathilde, avec la clôture du festival Cannes série et le palmarès qui a été dévoilé.
Oui, alors cette année, le Rose Carpet a entre autres reçu Michael Douglas. Le comédien américain a été ovationné pour la série Franklin, disponible sur Apple TV+, très prochainement. Mais c'est une toute autre fiction germanique cette fois qui a raflé la mise. The Zweiflers.
C'est vous qui êtes alsacienne, Mathilde.
Bah oui, mais
vous devriez parler allemand.
Vous êtes super.
J'ai des petites lacunes.
Je suis avec la moitié de la France.
Alors, c'est cette fiction qui a reçu le prix de la meilleure série, de la meilleure musique et le prix des lycéens.
Alors ce festival dédié aux séries, il est assez récent. Hein. Cannes, c'est 6 ans, un tout petit peu plus pour Sériemania, l'autre grand festival qui est à Lille. C'est bien qu'il y ait des festivals comme ça qui se développent pour les séries. C'est vrai qu'avec les plateformes, les séries ont pris une autre ampleur maintenant et peuvent être quasiment considérées comme des films, non, Tom ?
Ah bah oui, même plus. Enfin, j'ai l'impression qu'on consomme un peu au vu des chiffres plus de séries même que de films.
Que de films, ouais.
Et puis la grande différence, c'est que les séries sur 4, 6, 8, 10 épisodes, on a vraiment le temps d'installer les personnages, de faire grossir l'histoire. Donc, c'est vrai que les séries ont cet avantage par rapport aux films où maintenant, en 1h30, 2h, il faut tout faire rentrer. Et c'est là où on le voit même que les films sont de plus en plus longs parce qu'à côté des séries, tu regardes Dune, il fait 3h10. Ouais. Bah, ils sont obligés d'avoir plus de temps. Et c'est vrai que moi, quand je regarde un film tous les soirs, je suis oh là là, encore 2h30. C'est vrai que ça te plombe un peu. Alors qu'il y a un petit épisode de série de 50 minutes, c'est pas mal.
Ouais, on peut changer. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? C'est la qualité qui est devenue énorme, les comédiens de cinéma qui sont venus en faire. Les plateformes qui ont un peu lancé tout ça, puisqu'on voit même que maintenant les fictions de TF1, France 2, France 3 ont quand même monté en gamme hein, là, depuis plusieurs années.
Bah, c'est tout ça, ouais. Tout ça réuni. Et puis je pense aussi effectivement avec le côté internet, les plateformes, et aussi bien Netflix, Amazon, mais aussi France.tv, TF1+, etc. Bah, y a ce côté un peu rattrapage. Et puis il y a ce côté aussi binge-watching, oui. Où si on est fan d'un truc, on peut enchaîner épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4.
Jusqu'à 6h du mat, quoi.
Mais oui, jusqu'à 6h du matin. C'est pour terrible. Ça qu'on regarde certaines plateformes, comme entre autres. Canal+, finalement, qui reprennent un peu le truc de la télé, où, ah bah attends, on n'en met qu'un toutes les semaines, parce qu'avec la fièvre ou avec tous les autres trucs, oui. Parce que sinon, en fait, les gens, ils vont l'avoir torché en 2 jours et garder un peu le chaland.
Ouais, et c'est terrible, on est énervé maintenant d'avoir à attendre une semaine pour toute cette série, hein, c'est horrible. On termine ces news médias, Mathilde, avec le chiffre du jour, c'est le 2 aujourd'hui.
Oui, et alors, c'est le nombre de déprogrammations que le programme de M6 Pékin Express va subir dans les semaines à venir. Alors que l'on suit les candidats dans leurs aventures depuis début février, on devra patienter pour connaître l'issue de la demi-finale et cela pour cause de football. M6 diffusera le quart de finale aller de l'Europa League opposant le Benfica Lisbonne à l'Olympique de Marseille. Ouais. La semaine suivante, le 18 avril, rebelote avec le match de quart de finale retour.
Et oui, absolument. Donc 2 semaines sans Pékin Express. Hein. Les fans vont devoir un peu attendre.
Qui est où cette année déjà ? C'est où Pékin Express ?
Alors là, ils sont au Vietnam.
Ouais, au Vietnam. Bon, et ils ont fait avant la Thaïlande, je crois. Et ils finissent au Cambodge, non ? Au Vietnam ?
Ils ont fait Malaisie, Indonésie, et là, ils finissent au Vietnam.
Voilà, bravo, Mathilde connaît absolument tout. Elle est meilleure en Pékin Express qu'en allemand. C'est ce que j'ai retenu. Pékin Express, ça a déjà été ouvert à des célébrités. Est-ce que c'est le type d'émission que vous pourriez faire un jour, Tom, si on vous appelle ? Vous courez, vous êtes en forme. Ça vous plairait ce genre d'émission là, un peu dingue, où il faut aller d'un point à un autre en faisant du stop, en courant, avec un sac à dos.
Oui et non. Oui, en vrai, j'aime bien le côté aventurier, etc.
Avec qui ?
Après,
parce que c'est des binômes toujours. Ouais. Hein. Ouais. Alors, Inès Reg et Valérie Trierweiler, non. Elles n'iront pas ensemble, ça c'est sûr.
Avec Arnaud Ducret, qui je bosse beaucoup, avec Jeff Panaclock, ça pourrait être très drôle. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire un truc marrant. Ouais.
Et il y a d'autres genres d'émissions que vous pourriez faire, parce que maintenant vous êtes aussi un comédien de TF1. Si vous appelez pour Dals ou Massinger, vous y allez ou pas ?
Non, je pense pas. Non, Dals. non,
mais Dals, c'est dur, c'est du boulot.
Non, mais Dals, ça m'a été proposé. Le truc, c'est que j'ai fait de la danse étant plus jeune. Okay. Je suis nul. J'ai pas le rythme. Ma femme se fout de moi. Vraiment, j'ai pas même en musique quand je dois applaudir dans les mains un spectacle, c'est jamais en rythme. En fait, je pense que si c'est pour sortir première semaine, non merci. Pas de danse.
Bon, pas de danse. TF1, faudra patienter encore un petit peu.
Après, je peux être dans le jury. Voilà, ça si.
Jury, c'est possible, ça, on en parle. Mademoiselle Holmes, c'est le titre de la nouvelle série lancée sur TF1, l'histoire de l'arrière-petite-fille du célèbre détective anglais, sauf que celle-ci vit en France. Elle est épaulée dans son enquête par un docteur Watson un peu particulier. C'est vous, Samy Vatel, médecin légiste stagiaire, un poil timide, un tantinet inquiet. Vous avez tout de suite dit oui pour le rôle. Ça vous collait à l'impôt.
Oui, vraiment, j'ai bien senti le truc. Et puis en plus, ce qu'il y avait de génial avec ce projet, c'est que c'est une grande marque, très connue, très installé qu'on connaît tous, et en même temps là c'est une nouveauté, ça se passe pas au XXe siècle, on est en 2023-2024, on est dans notre époque, c'est une branche française, donc il y a à la fois le poids de la marque et en même temps tout à créer,
c'était la liberté quand même de faire ce que vous voulez. Ouais.
Et alors justement, quand le projet est arrivé, vous avez vu au casting Lola Devers, Daniel Prévost, Thomas Jouannet, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Bingo, là c'est le bon.
Ah bah oui, c'était. Je savais, au moment où j'acceptais, je savais qu'il y avait Lola Devers, et après ça s'est confirmé avec Daniel Prévost et tout, mais oui. C'est, en fait, ce qu'il y a de génial, c'est de démarrer une nouvelle aventure, de démarrer une nouvelle série. Ça, c'est vraiment ce qui est passionnant. Ouais.
Et vous avez joué dans un épisode d'Astrid et Raphaël, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était la saison 4, avec Loa Doer. Vous connaissiez un petit peu, j'imagine, puisque évidemment, tout repose beaucoup sur votre duo, comme dans Holmes et Watson. Vous connaissiez, comment ça s'est passé entre vous?
Alors, il se trouve qu'en fait, la série Astrid et Raphaël est produite par les mêmes producteurs que Munch. Du coup, le producteur m'a passé un petit coup de fil, est-ce que ça dirait de venir dans un épisode? J'ai dit avec grand plaisir. Et donc, c'était très drôle, parce qu'effectivement, on était face à face avec Lola. Après, en réalité, j'ai eu que 3 jours en commun avec elle. Voilà, on s'est croisés, on a joué ensemble, mais elle, pour voir ce que c'est une série sur 60-80 jours, 3 jours sur 80 jours, elle est dans un tunnel, elle doit enchaîner. Donc on s'était croisés, on s'était très bien entendus, mais c'était en septembre, donc c'était quasiment 6 mois avant Mademoiselle Holmes. En vrai, c'est vraiment le hasard qui a fait ça, mais moi j'étais très content et je crois que c'était réciproque qu'on se retrouve ensemble.
On va pas en parler évidemment de votre duo aussi.
Oui, alors justement, pour pitcher le début.
Un petit peu, au moins, pour donner un peu envie. Voilà.
On va dire que Charlie Holmes est une femme discrète, un peu dépressive, qui souffre de troubles de l'humeur. Ouais. Elle travaille dans la police, dans un gentil placard.
Oui, jusqu'au jour... les chiens écrasés, quoi, un peu, c'est ça.
Jusqu'au jour où un accident de voiture va réveiller sa conscience et lui permettre de développer ses talents insoupçonnés. Elle va passer de subalterne à enquêtrice professionnelle, avec l'aide de Samy, c'est-à-dire vous. Et alors, racontez-nous un peu comment ça fonctionne, ce duo, vraiment... devant la caméra.
En fait, ça a été assez fluide. C'est que l'avantage, c'est qu'effectivement, le personnage de Charlie Holmes, c'est un peu comme un papillon. Il sort de sa chrysalide, donc tout d'un coup, il y a tous ses sens qui sont en éveil. Donc effectivement, elle a
le changement est brutal. Hein, c'est incroyable
de redécouvrir les burgers, de découvrir le vélo, les animaux, etc.
Sexe aussi. Hein.
Le sexe, effectivement.
Aussi, émotions, hein, elle était très introvertie.
C'est ça. C'est une deuxième naissance suite à cet événement. Et donc effectivement, moi, ce binôme, je suis médecin, je suis le seul qui perçoit un peu, qui comprend que, tout le monde rigole, mais attendez, il se passe un truc un peu particulier. Donc, effectivement, moi, j'ai la chance de jouer un peu le clown blanc, faire « Attends, calme-toi ». Et ça m'amuse beaucoup de jouer le timide, un peu maladroit. Ça c'est très marrant.
Ça, c'est ce qui fonctionne toujours, hein, évidemment. C'est l'éternel contraste de l'Auguste, qui est joué par Loa Doer, et le clown blanc. Vous, il y a l'humour. Il y a aussi une complicité assez... touchante qui transparaît à l'écran au fur et à mesure, on va pas trop en révéler. Vous avez ressenti ça aussi sur le tournage?
Oui.
Comment ça s'est passé?
C'était en fait la grande chance.
Il y a de l'humour, hein, c'est drôle, hein, et on le dit effectivement, c'est important.
Oui, mais il y a un peu de tout.
Mais il y a aussi cette émotion et voilà.
Ça c'était important et puis en plus c'était les scénarios qui voulaient ça, mais c'est l'avantage avec Lola, c'est que c'est une grande comédienne et c'est un super partenaire de jeu. Donc effectivement, on a beau refaire 15 fois la prise pour la faire dans tous les axes avec la caméra, mais c'est avec la même intensité à chaque fois et oui, je crois que ça se perçoit un peu quand on voit le résultat final. Ouais.
Et alors Holmes vous dit élémentaire, mon cher Samy, c'est difficile de jouer un bon Watson.
Il y a les vrais refs.
Après, l'avantage, c'est que je suis pas un vrai Watson. Elle, c'est une vraie Holmes, moi, je suis pas un vrai Watson.
Vous êtes docteur comme Watson.
Évidemment.
Par hasard.
Mais je suis pas un descendant de. Soulage aussi un petit peu. Ouais. Mais ça met la pression parce que Watson, c'est quand même un personnage emblématique.
Et très important, ouais, absolument. Alors, un petit mot quand même sur Daniel Prévost. Ça vous a fait quoi de tourner avec cette espèce de monstre sacré de la comédie française? Un peu de pression. Il est facile ou pas, Daniel Prévost?
C'est un amour. Et ce qui avait été très drôle, c'est que finalement, j'avais fait exprès de pas trop le croiser avant. Et la première scène de rencontre dans la série, c'est un peu notre première vraie scène de rencontre aussi.
Il est un peu dur, un peu froid. Hein, c'est
et oui,
pas
parce
évident.
Que je voulais être aussi un peu impressionné par le bonhomme, quoi. Ouais. Et c'est vrai que on l'a vu dans tous les films, dans Le Petit Rapporteur, dans tout ça. Ouais. Et je voulais être impressionné, et ça a été le cas. Donc du coup, ce qui est chouette, c'est que ce que je vivais personnellement, le personnage le vivait aussi, et je trouvais ça intéressant.
Vous avez parlé du dîner de con par exemple ou pas, ou c'est un truc c'est forcé quand on parle, vous osez pas trop?
Pas trop,
vous dites
non,
que tout le monde le dérange avec
ça, je me dis depuis 98 ça fait
Cheval, c'est mythique, c'est un rôle mythique,
c'est mythique, non c'est vrai que non parce que alors pour tout vous dire en plus il était en train de tourner aussi Maison de retraite 2 qui est déjà sorti aussi, donc en plus on s'est croisé, il était un peu dans il avait beaucoup de choses
il
à faire,
il n'arrête pas Daniel Prévost.
Et alors les séries policières feel good avec de l'humour, un personnage fantasque et un rythme haletant comme HPI, Mercato ou le négociateur. Ouais. TF1 mise beaucoup dessus en ce moment.
C'est vrai.
Parce que là, on reste un peu dans cette même veine avec Mademoiselle Holmes.
Clairement. Ouais. Après, en vrai, ça fait déjà quelques temps. Munch, ce qu'on faisait aussi avec Isabelle Nanty, c'était des enquêtes policières.
On est passé des trucs un peu noirs à des trucs vraiment plus légers.
Un peu plus coloré, un peu plus léger, effectivement. Et pourtant, il y a quand même des vrais crimes, des vrais drames là-dedans. Et on prend ces vrais crimes et tout au sérieux. Mais justement, on essaie d'apporter un petit peu de comédie. C'est notre grande chance, je pense, parce que voilà, il y a le... si vous aimez Sherlock Holmes, je pense que vous allez retrouver toutes les références. Il y a les Moriarty, il y a plein de choses, etc. Et en même temps, nous, on est les Français. Faisons ce qu'on sait faire un petit peu. Apportons notre humour français, etc. Pour pas trop se prendre au sérieux. Voilà, c'est ça.
Alors, côté français, c'est que vous avez tourné en Loire-Atlantique, hein, près de Nantes, à Nantes. Mais vous êtes aussi allé tourner à Londres. Hein, on se plaît un petit peu, mais on l'a vu dans la bande-annonce, d'ailleurs. À Londres, vous êtes même allé au 221 Baker Street, là, vraiment, je sais comme si c'était comment de se retrouver à Londres.
C'est mythique. Tom, c'est... Non, mais en plus, on a démarré le tournage par ça.
Ah oui, c'était le premier, d'accord, premier épisode.
On a démarré, donc c'était génial, parce que déjà, la chance de tourner quand on est une production française et qu'on va produire un truc en France, d'aller tourner à l'étranger, c'est pas tous les jours. À Londres en plus, et puis bah, y avait le côté, on faisait les touristes, on allait voir le Big Ben, la roue, effectivement, Baker Street et tout. Donc non, c'était génial. Et puis en plus, il y avait ce truc où nous, quand on est à Paris et qu'on voit des tournages, on est toujours un peu comme ça, regarder ce qui se passe. Là, c'était très drôle d'être inversé, d'être repéré par les touristes, etc. Et qu'ils disaient, mais... qui sait, on ne les connaît pas.
Qui sait, qui tourne là, les caméras.
Non, et ce qui était très drôle, c'était de voir tous les Français. En fait, il y a tellement de Français à Londres que.
Ouais, quelques-uns vous ont reconnu quand même.
Nous ont repéré.
Et alors, il y a 6 épisodes de 52 minutes. Oui. On va attendre les audiences de demain matin, mais j'imagine qu'une saison 2 est. Dans les.
On va taper du bois.
Forcément du bois de bonne qualité, ça, Thomas. Je vous en ferai toucher un autre dehors.
Très bien. Bah, rendez-vous demain, les audiences, effectivement. Ouais. Est-ce que le public sera au rendez-vous et aura aimé aussi le produit? Et puis, il y a une saison 2, on en discute déjà, parce qu'en vrai, la saison 1, on l'a tournée l'année dernière. Donc, s'il faut qu'il y ait une saison 2, on ne va pas la tourner dans 7 ans. Ouais. Les audiences se feront.
C'est les audiences qui feront. Pour l'instant, rien n'est enclenché encore pour une saison 2.
Non, je crois qu'il faut appeler TF1. Là, si vous voulez, on peut.
Je les appellerai. Mais vous avez déjà été dans une série de TF1, c'était Munch, évidemment. Donc vous savez que pour TF1, l'audience est super, méga, giga, importante là-bas. Demain matin, 9h04-05.
Ouais.
Vous regarderez Médiamétrie tout de suite,
Ah bah oui, c'est un peu les arènes romaines. On sait si on continue aussi. Oui, mais il y a un petit paramètre où, effectivement, je vois par rapport à Mouche, par exemple. C'est le J+7.
Oui.
C'est TF1+, tous ceux qui regardent. Et quand on voit les plus 700 000, plus 900 000, plus 1 million de téléspectateurs, ça joue beaucoup dans la balance. Donc, il y aura l'audience de demain matin. Et puis, rendez-vous dans 8 jours aussi.
À J+7,
Et alors, justement, à propos de Munch, la dernière saison date de 2021.
Oui.
Son arrêt n'a jamais vraiment été officialisé, mais c'est tout comme on peut espérer.
Pour vous, ça revient pas ou
je crois pas. En tout cas, ou alors on m'a pas prévenu. Je crois pas. Je crois pas qu'il y aura de saison 5. Après, pour le moment, mais si ça se trouve, parce que là, je sais qu'Isabelle Nanty, elle enchaîne, elle est sur le tournage des Tuches 5. Mm-hmm. Elle a du théâtre. Peut-être que on sait jamais. Peut-être qu'on fera 2 épisodes histoire de clôturer la boucle.
Comme section de recherche ou ce genre-là qui finissent par un unitaire un peu.
Exactement. Moi, si c'est le cas, avec grand plaisir.
Vous y allez.
Je suis au maquillage, il n'y a pas de souci.
Il sera prêt. Alors, dans Munch, puisqu'on en parlait, vous partagiez l'affiche avec Aurélien Wick.
Ouais.
Et le mois dernier, Aurélien a eu beaucoup de courage en évoquant les agressions sexuelles dont il avait été victime depuis son adolescence jusqu'à l'âge de 25 ans. Hein. Il a déclaré souhaiter que la peur change de camp, je le cite, que la honte doit disparaître en encourageant la libération de la parole chez les femmes, bien sûr, mais aussi chez les hommes, ce qui n'avait rarement été fait. J'imagine que vous avez été touché par ces propos. Vous avez tourné avec lui pendant 4 saisons. Aurélien.
Aurélien. Et puis Aurélien, c'est un copain. Et puis, il a ce côté, des fois, un peu. Un peu sûr de lui, etc. Et puis quand on voit ça, on se rend compte que en fait, personne n'est à l'abri de rien. Et il a eu raison de parler. Et effectivement, il ne faut pas que ça s'arrête. Et il faut surtout que la peur change de camp. Et puis, c'est la preuve qu'il n'y a pas qu'un type de personne qui
peut être victime.
Il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. Et
Parce que justement, il parle du MeToo garçon.
Ouais.
Pour vous, il a levé un tabou, parce que jusqu'à maintenant, on n'en parlait quasiment pas.
Des garçons, effectivement. Garçons, et le MeToo femme qui existe depuis quelques années maintenant. Ouais, mais...
C'est quoi la question du
coup? Non, la question... La question... Non, allez-y, allez-y Mathilde, allez-y.
Il avait levé un tabou supplémentaire, quoi.
Oui, je pense. Après, Aurélien, à la différence de moi, c'est qu'Aurélien, c'est un enfant de la balle. Il a commencé hyper jeune, je crois qu'il a commencé à 5-6 ans. Ouais. Donc, en plus, il a vu toute cette évolution. Donc, il a commencé dans les années 80, peut-être, 80-90.
C'est ça, oui.
Donc, effectivement...
Quand c'est arrivé, il a dit qu'il avait 12 ans, entre 12 et 15 ans, les premières...
C'est ça, c'est que là, ça nous paraît évident qu'aujourd'hui, en 2024, on dise ça ne peut plus arriver. Et de toute façon, sur les tournages, maintenant, il n'y a plus... Enfin, c'est plus possible, en fait. Il y aura toujours un référent et c'est super. Effectivement, je pense que lui, il a connu en plus de ça une époque où... une autre époque, tout simplement.
Et quand vous fréquentiez de Munch, ou mais avant, parce que vous dites que c'est votre copain, il en parlait ou pas du tout? Vous avez découvert ça un peu
Ouais. Non, justement, on rigolait quoi, entre les prises et tout. On n'en parlait pas du tout. Donc ça a été un peu le...
Ouais, une vraie prise de conscience là-dessus. Vous, ça vous est arrivé d'être victime de harcèlement comme ça, d'agression dans votre carrière?
J'ai eu de la chance. Non. C'est vrai que c'est un truc qui... Moi, je me souviens quand mes parents, quand je démarrais ce truc de la radio, de la télé, de « Oh, fais attention à toi !» Et c'est vrai que quand je vois mon parcours, je me dis « Mais j'aurais dû faire attention... » Enfin, à quoi? Parce que j'ai pas eu de soucis. Mais effectivement, quand je vois tous les malheurs qu'ont eu certains, je comprends l'inquiétude des parents de faire attention à ce monde qu'on ne connaît pas du tout. Moi, j'ai eu de la chance, la drogue, l'alcool et la fête, ça n'a pas du tout été mon parcours, donc j'ai de la chance. Mais effectivement, c'est un peu malheureux.
Mais c'est vrai que les référents aujourd'hui, on sait que c'est important, plein de comédiens passent ici, à cette place, et ils disent, c'est vrai que maintenant, avant même une scène de baiser, la veille, on est briefé, il y a un référent qui explique, qui sait que ça se passe aussi comme ça pour vous. Je vais rien spoiler, je ne sais pas s'il se passe quelque chose entre Lola Devers et vous, je n'ai vu que le premier épisode, donc je ne sais pas, Tom, je ne peux rien dire, mais on sent qu'il y a une petite tension. Mais
il y a une petite attirance.
Là-dessus, pareil, il y a un référent qui vous guide, si par exemple vous avez une scène de baiser, simplement de dire vous êtes d'accord, demander à la comédienne, à vous,
moi, de toute
encadrer.
Façon, ce que je fais, en tout cas, ça m'était, si je prends l'exemple de Munch qui m'était arrivé, quand je vois que ça avait arrivé par exemple avec Paloma Coppan, directement j'allais la voir, je suis alors attends, dis-moi tout, comment tu veux faire, vas-y, prends le lead, toi. Enfin, moi en plus, je suis pudique et tout, donc c'est vraiment pas les trucs où ça m'amuse. Donc, là-dessus, il n'y a pas de débat là-dessus. Pour moi, c'est la femme qui doit mener la danse un petit peu. Et
pour vous, ça va continuer ce combat non-stop? Là, il y a eu Julie Godrèche récemment, beaucoup de réalisateurs qui sont impliqués. Il faut que ça continue pour vous, Tom, c'est important.
Il faut que ça cesse. Il y a un moment, c'est pas possible. Ouais. Faut qu'on déterre les cadavres une bonne fois pour toutes.
Quand je dis ça continue, terrain, la libération, je parlais pas du harcèlement.
Retirons tous les cadavres des placards, déterrons tout. On fait une belle chape de béton, un truc propre, clean.
À la Xavier Dupont-Ligonnès, c'est ça?
Ouais, alors ouais, voilà. On va déterrer.
Pardon, je l'ai tenté, celle-là.
Non, oui, écoutez, je vous laisse juge là-dessus. Non,
faire table rase, c'est ça, vraiment, et repartir.
Non, mais surtout, allez, il y en a marre, quoi. C'est vrai que tu dis, mais c'est pas possible qu'il y ait eu tout ça, et effectivement, quand tu vois tous ces traumatismes et tout, c'est... C'est terrible.
Alors, sur une toute autre note, vous continuez de tourner des pastilles humoristiques sur vos réseaux sociaux.
Oui.
Vous lâchez pas cet autre métier? Vous avez vraiment envie de continuer
Oui, ça m'amuse. Pour moi, c'est complémentaire, effectivement, de faire des trucs. Et puis, ça permet de faire aussi de la promotion différemment et de toucher d'autres supports. Là, j'ai fait un truc hier avec Abrèche Frère, qui abrège les story time et tout. Et justement, ce qu'il y a de chouette, c'est de prévenir les gens qui n'ont pas... C'est con, mais les programmes télé, en fait. Peut-être qu'eux, ils ont TikTok, j'ai vu sur TikTok, il y a la série sur TF1 et tout, sur Instagram, sur Facebook, de prévenir de façon un peu différente et plus moderne. Mais c'est super, moi je suis très heureux d'être au Buzz TV Le Figaro, de faire une interview pour Télé 7 jours, mais il ne faut pas oublier TikTok et Instagram non plus. Quoi.
Ouais, donc la scène, tout ça, ce n'est pas un truc que vous abandonnez, les One Man, non, vous avez envie d'y retourner, il y a d'autres projets ou pas, Tom?
Oui, bien sûr, il y a des projets, oui, totalement. J'ai fini d'écrire une pièce de théâtre, donc là on est en train de voir comment on
peut... En troupe alors, du coup?
Oui, là j'aimerais bien.
D'accord.
Là, j'aimerais bien, c'est un truc qui me...
Vous en avez marre d'être seul sur scène ou d'écrire pour les autres?
D'écrire pour les autres, j'ai pas de soucis. Oui, effectivement, le one-man show, j'en ferai.
Ouais.
Mais peut-être pas demain. Je trouve que j'ai envie de vivre un truc à plusieurs et tout. Ouais. Je trouve ça chouette. Ouais.
Alors, l'humour aujourd'hui, c'est devenu un petit peu délicat. Est-ce que vous faites plus attention qu'avant à ce que vous dites?
Non, je fais attention suivant le canal, en fait, ouais. Ça dépend.
Vous adaptez vraiment votre discours
sur... Exactement, ouais, ça dépend.
Il y a des sujets d'actu, de société, sur lesquels vous dites, ouais, j'ai pas envie d'y aller, de peur de se dire, des associations de tous bords vont m'attaquer ou pas du tout,
non,
vous pensez pas
c'est
ça.
Justement, là, quand on voit toutes les guerres qui se passent et tout... Et puis surtout, qu'est-ce qu'on s'en fout de mon avis ? Mais de savoir si je suis pour ou pour tel camp. Non, justement, moi je suis plutôt partisan de vivons heureux, vivons cachés, je m'en fous de ça, ne prenons pas parti. On est que des troubadours et essayons justement de modestement divertir les gens et de sortir de l'actualité qui n'est pas terrible en ce moment. Quoi.
C'est pas faux. Vivons heureux, vivons cachés, mais pas maintenant puisque c'est l'heure de la rubrique au suivant. Nous recevions hier sur ce plateau Hervé Matou, le présentateur du foot sur Canal+, et notamment de la nouvelle émission Au Micro. Ouais. Il avait une question à vous poser, Tom. Ce que je vous propose, c'est de l'écouter tout de suite et d'y répondre juste après.
Je sais que tu es un passionné de foot, donc ma question est simple. Je viens de parler de Au Micro, notre nouvelle émission, un peu de casting, de commentateur. Est-ce que s'il y a une saison 2, tu es prêt à candidater et à devenir, si tu gagnes, commentateur de foot pendant un an? Voilà.
La question est claire. Le premier épisode est passé hier soir. J'ai vu que vous avez vu. Commentateur de foot, c'est particulier.
Chiche, vas-y, je fais la saison 2.
Ah, vous tentez.
Ah, mais oui.
Il y a le frère d'Ahmed Silla qui passe dans la saison 1.
Moussa
Khalid.
Ah, pardon.
Silla, qui est son autre frère qui est vendeur et qui adore le foot et qui va passer dans l'épisode 2.
Mais je trouve ça drôle. Oui, vas-y, je fais la saison 2. J'aimerais faire un truc et il y a peu de chances que je sois pris. Mais, mais oui, ça me fait marrer. Et puis justement, dans ce genre de concours, moi, ça m'a toujours amusé. Je crois, si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas Vianney qui était venu faire un truc dans The Voice.
Exactement.
Enfin, voilà, un petit clin d'œil. Encore une fois, je pense pas que je...
Mais si vous êtes pris, vous faites le contrat à Canal pendant un an à faire la Ligue des Champions ou pas?
Ah bah c'est pas mal.
Ouais, c'est sympa.
Attendez, c'est contrat où on se déplace dans le stade ou c'est en cabine à Boulogne-Billancourt?
Il y a les deux.
Ah,
y a les deux.
Bon, très bien, parce que moi je vais y aller à Barcelone.
Merci beaucoup Tamila d'être passé nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve dans la nouvelle série de TF1 à ne pas rater, Mademoiselle Holmes aux côtés de Lola Dever et Daniel Prévost. Une série évidemment qu'on vous recommande sans aucune retenue.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
Incroyable, mon mari lui rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.